Alors, c'est parti. On va faire un petit brin d'histoire ce matin. Je vais avoir besoin des personnes qui sont capables de lire les textes. On a beaucoup de textes. On va retourner au tout début de l'histoire de l'Église. Et puis, on va voir qu'il y a une promesse qui a été faite à nous et à nos enfants. Et quelle est cette promesse-là que Dieu a faite aux familles? J'ai besoin de quelqu'un qui peut peut-être se lever puis lire. Alors, Luc a écrit un premier livre qui s'appelle l'Évangile de Luc. Et qu'est-ce que ça raconte dans l'Évangile de Luc? Tout ce que Jésus a fait et enseigné. En tout cas, tout ce qui est absolument important. Hein? Jusqu'au jour où il a été enlevé dans le ciel, ça a duré combien de temps? 40 jours. Alors, ensuite de ça, il a écrit, quelqu'un veut lire la suite? Alors, Luc écrit le livre des Actes, et dans ça, il y a trois grands courants, trois grandes choses importantes. La première, c'est que Jésus est ressuscité, il est vivant, mais il a été enlevé, hein? Il n'est plus visible à nos yeux. Il est au ciel, et qu'est-ce qu'il fait au ciel? Il règne, il intercède pour nous. Hein? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il y a aussi qu'il revient bientôt. Hein? Et il a confié la mission qu'il a accomplie sur la terre, dans les évangiles, il l'a confié à ses apôtres et à l'Église ensuite. Et il a promis qu'on ne serait pas orphelin, mais qu'il allait donner à ses apôtres et à ses disciples par la suite, il allait donner le Saint-Esprit, la puissance qu'il faut pour vivre cette vie chrétienne et l'annoncer à toute la terre. Alors, ça a duré 40 jours. Et ensuite, quelqu'un veut lire? Alors, oui, Jésus n'est plus présent sur la terre, physiquement. Il a été enlevé au ciel et il promet qu'il va revenir bientôt. Hein? On a une espérance. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? 10 jours après que Jésus est parti. La Pentecôte, c'était le 50e jour. Alors, 10 jours après que Jésus est parti, les disciples sont rassemblés ensemble et qu'est-ce qui se passe? Un lecteur. Oui? Alors, on lit juste un peu avant qu'ils étaient environ 120. Un petit peu plus nombreux que ce qu'on est ce matin. Et imaginez la scène si ça se passait aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a eu des phénomènes. Du bruit, hein? Un bruit qui vient du ciel, un vent violent, et un bruit tellement fort que ça l'a ameuté les gens autour qui se demandaient qu'est-ce qui se passait dans cet endroit-là. Donc, c'était quelque chose qui n'était pas juste ici, là, dans le local. C'était quelque chose qui s'est répandu un peu partout. Et un vent violent qui a soufflé sur la maison. Des langues de feu qui apparaissent sur les personnes qui sont là et elles sont tous remplies du Saint-Esprit, ils se mettent à parler dans d'autres langues. Les gens qui étaient là, leur réaction, phénomène extraordinaire, le vent, le bruit, il se passe de quoi? Les gens accourent. Et puis là, un miracle incroyable, ils voient des Galiléens, des gens qui ne sont jamais sortis à peu près de leur territoire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à parler en chinois. Ce matin, je me mettrais à parler en chinois tout à coup, même en anglais. Hein? Ça serait presque un miracle. Sans hésitation, là, hein? Parler librement. un arabe, un chinois, un... peu importe. Alors, les gens sont là, ils regardent les pêcheurs, des gens très, très simples qui sont jamais partis de leur pays, qui parlent dans des dialectes étrangers, complètement étrangers. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça veut dire? Hein? Et la suite, qu'est-ce que Pierre leur répond? Pierre leur répond, ce que vous entendez là, ce que vous voyez là, ce que vous entendez, c'est Dieu qui parle. Dieu est là. Hein? La prophétie de Joël, et là il y avait eu 400 ans de silence, ça fait 400 ans que Dieu n'avait pas parlé, qu'il n'y avait pas de livres qui se sont ajoutés entre l'Ancien et le Nouveau Testament, 400 ans de silence où Dieu n'a pas parlé à son peuple. Et la prophétie de Joël, c'était qu'un jour, Dieu allait se remettre à parler. Hein? Il allait répandre son Saint-Esprit. Et Pierre, il dit que ce jour-là est arrivé. La prophétie, la promesse arrive. Dieu se remet à parler à nouveau. Hein? Et si on regarde les phénomènes qu'il y avait au Sinaï, quand Dieu a donné la loi à Moïse, le feu, tremblement de terre, il y a quelque chose de comparable à ce moment-là où Dieu a parlé au Sinaï. Maintenant, Dieu parle à la Pentecôte, à ce moment-là. Et Dieu rompt le silence, il se révèle à nouveau. Et qu'est-ce que Joël a annoncé? Il y avait quelque chose de spécial. Dieu va parler à nouveau, mais ça va être différent de ce qu'il a fait dans le passé. Dans le passé, il s'adressait à des prophètes, des gens qui étaient déjà établis dans la fonction, à des rois, aux prêtres, sacrificateurs. Il y a des gens qui exceptionnellement étaient remplis du Saint-Esprit et qui parlaient au nom de Dieu. Mais là, ce que Joël annonce, c'est que Dieu va répandre son Saint-Esprit sur tout être humain. Pas juste les gars. Vos fils et vos filles, il n'y aura plus de différence de sexe. L'Esprit de Dieu va être accordé, va être répandu sur tous les êtres humains, peu importe leur sexe. Je parlerai à des jeunes gens et à des vieillards, pas juste les vieux pasteurs. Hein? Les jeunes, les anciens pasteurs. Et ses serviteurs, peu importe le statut social, peu importe le sexe, peu importe l'âge, Joël avait prédit qu'à un moment donné, l'Esprit, Dieu allait parler maintenant, et peu importe les personnes. Et il y a un signe en particulier, les langues. Pourquoi est-ce que Dieu, maintenant, s'adresse, parle aux gens, se révèle à l'humanité, puis se met à parler dans d'autres langues? C'est quoi ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, le salut n'est plus réservé à une race, à un peuple, on pourrait dire, ethnique. Mais le salut maintenant est annoncé, prêché à toutes les nations. Le salut va se répandre sur toute la terre. Hein, il y a un texte qui dit que les signes, les langues sont un signe pour les non-croyants, juifs, entre guillemets. Dieu va parler par des lèvres d'étrangers à son peuple et ils n'écouteront pas. Alors, c'est un signe que Dieu allait maintenant s'adresser, révéler qui il est, révéler son plan à toute créature sous le ciel, peu importe sa race. Le salut allait s'adresser à toutes les nations maintenant. Et quiconque, hein, quiconque, noir, blanc, jaune, rouge, qu'est-ce qu'il y a pour ça? Il n'y en a pas d'autre? Quiconque, hein, homme, femme, roi, serviteur, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quelle nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Et quelle a été la réaction des gens? Touchés. Hein? Ils sont touchés. Ils ont vu, ils ont entendu le miracle, ils ont entendu Dieu parler. Et ils reconnaissent que Dieu est à l'œuvre. Et quelle est leur réaction? Ils eurent le cœur vivement touché. Et ils ont dit à Pierre, Pierre, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein? Et Pierre leur a dit deux choses. La première, c'est repentez-vous. Métanoïa. Hein? Changement de voie, un U-turn en anglais. Hein? Changement de façon de penser, changement de façon de ressentir les choses, je pense. Un changement de vie, finalement. Changez votre façon de vivre. Avant, vous étiez dans l'erreur. Avant, vous suiviez votre propre voie. Vous faisiez vos affaires comme bon vous semble. Maintenant, vous choisissez de suivre Jésus. Vous comprenez qui est Jésus et vous choisissez de suivre Jésus. Un changement de cœur. Avant, vous étiez peut-être indifférent, insouciant. Oui, Dieu, mais peu importe. Mais là, maintenant, j'ai soif. Maintenant, je veux connaître ce Jésus-là. Repentez-vous, hein? Convertissez-vous. Changez de voie. Suivez le Seigneur Jésus. Et la deuxième chose, qui est peut-être la même chose, quel est le premier pas que fait celui qui choisit de suivre Jésus-Christ? Se fait baptiser. Hein? Baptiser au nom de Jésus-Christ. On se détourne de notre ancienne vie, notre ancienne façon de vivre sans Dieu, et maintenant on se tourne vers Jésus, et le premier pas d'obéissance, c'est le baptême. Qu'est-ce que c'est le baptême? C'est une façon de dire, de déclarer publiquement que je suis disciple de Jésus-Christ. Et là, ce sont des Juifs, là. Ce sont des Juifs à qui Pierre dit, vous devez vous repentir et vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ. C'était toute une décision. Vraiment, ils devaient faire face à ce que Jésus avait représenté pour eux avant. Ils l'avaient crucifié. Mais là, ils devaient s'identifier comme étant un disciple de celui qui avait été crucifié par les chefs religieux, par les autorités. Toute une décision. Hein? Ils devaient changer de pensée. La conception qu'ils avaient de Jésus, il fallait qu'elle soit changée, qu'elle soit transformée. Et ils devaient le déclarer publiquement en se faisant baptiser. Moi, je décide de m'identifier à Jésus-Christ. Hein? C'est un engagement formel de suivre Jésus-Christ. C'est pas juste une formalité. Hein? C'est vraiment un acte responsable, un acte qui m'engage solennellement à suivre Jésus-Christ. Parce qu'il y a des personnes qui connaissent Jésus-Christ et qui veulent choisir de le suivre dans les eaux du baptême. On va voir ça en janvier, peut-être février. On aura un baptême pour les personnes qui veulent suivre Jésus. Quelle est la raison pour laquelle on se convertit, on se repent et qu'on est baptisé au nom de Jésus-Christ? Pour le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit. Pour le pardon des péchés. Il y a ce texte-là que j'aime beaucoup, Romains 4-6. Je veux le lire moi-même. Hein? David exprime aussi de la même manière le bonheur de l'homme que Dieu déclare juste sans qu'il ait produit d'œuvre pour le mériter. Qui est-ce qui mérite le bonheur, la bénédiction de Dieu? Aucun être humain. On a tous flanché, on a tous déçu. Mais il dit, heureux ceux dont les fautes ont été pardonnées et dont les péchés ont été effacés. Heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. C'est quoi le plus grand bonheur sur cette terre? Quel est le plus grand bonheur sur la terre? C'est de savoir que mes péchés sont pardonnés. Il n'y a rien pour battre ça. De savoir que mes péchés ont été pardonnés. Peut-être qu'on est vieux chrétien. c'est un vieux refrain qu'on sait par cœur. Ouch! Hein? Une sœur ce matin dans la prière en bas qui disait « La miséricorde de Dieu était emballée par la miséricorde de Dieu parce que aussitôt qu'elle pêche, Dieu lui pardonne. » On a perdu ça quelque part peut-être. Hein? Il n'y a pas de plus grand bonheur que de savoir que nos péchés sont pardonnés. Et l'autre chose qui va avec, c'est pour tout d'avoir un cœur qui lave et purifié. Mais il y a une autre promesse, il y a un autre effet de recevoir Jésus-Christ et d'être baptisé, c'est vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. On va recevoir le Saint-Esprit. Même si le cœur est tout propre, il est tout lavé, purifié, il manque de quoi? Hein? Il manque de quoi? Et qu'est-ce qui manque? La présence de Dieu à l'intérieur. Et ça, c'est un don qui a été fait à tous les croyants. Autant j'ai besoin du pardon de mes péchés pour vivre à tous les jours, autant j'ai besoin de la présence et de la puissance du Saint-Esprit dans mon cœur à tous les jours. Sans ça, je ne peux pas vivre, en tout cas, je ne peux pas vivre le bonheur. N'est-ce pas? On prêche beaucoup le pardon des péchés, mais je ne suis pas sûr qu'on prêche l'autre côté de la médaille, qui est notre besoin du Saint-Esprit à tous les jours. On a besoin, hein? On n'est pas seul. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. On a le Consolateur qui n'est pas seulement avec nous, physiquement, comme Jésus l'a été sur la terre avec ses disciples. On a plus que ça. On a Jésus qui est présent en nous par son Saint-Esprit. Encore bien plus proche que ce que les apôtres ont vécu de ce qu'ils étaient sur la terre. Croyez-vous ça? Quand tu vas travailler, quand tu passes des moments difficiles, est-ce que tu crois ça, que Jésus, par son Saint-Esprit, le Saint-Esprit habite en toi? Et que tu n'es pas tout seul? Ça va faire toute la différence. Toute la différence. Alors le bonheur, c'est quoi? Savoir que mes péchés sont pardonnés et que j'ai cette intimité-là avec Dieu dans mon cœur. La présence de Dieu en moi. Et cette promesse, elle est pour qui? À l'époque, c'est la Pentecôte, ça, là. C'est la suite de la Pentecôte. La promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Alors, elle est pour toutes les générations futures et jusqu'aux extrémités de la terre. La promesse de recevoir le pardon de Dieu et de recevoir le Saint-Esprit, elle est pour nous, pour nos enfants, et jusqu'au Québec aujourd'hui. À ce moment-là, il y en a combien qui ont accepté cette promesse-là? Personnes. L'équivalent, je pense, du village ici, là. Et peut-être on déborde un petit peu. 3000 personnes qui se lèvent d'un coup sec, qui reçoivent le pardon de leurs péchés, qui reçoivent le Saint-Esprit. Wow! Est-ce que Dieu peut faire ça encore aujourd'hui? Il est parti de 120. C'est là qu'on est rendu, à peu près. Dieu l'a fait au cours de l'histoire. Est-ce que les gens autour, ils ont besoin de Jésus? Est-ce qu'ils ont besoin de l'Évangile? Est-ce qu'ils ont une vie sans Dieu, une vie qui est perdue? Qu'est-ce que nos enfants ont le plus besoin? On va avoir une présentation d'enfants, là. Qu'est-ce que nos enfants ont besoin? On veut le bonheur de nos enfants. Est-ce qu'on veut qu'ils soient bénis matériellement, professionnellement? Bien sûr. Mais c'est quoi leur plus grand besoin dans le monde? C'est quoi qui va faire leur bonheur? De savoir que leurs péchés sont pardonnés. On ne peut pas vivre sans pardon. On ne peut pas vivre sans pardon. L'être humain ne peut pas vivre sans pardon, pas plus qu'il ne peut vivre sans respirer, sans boire. Pour s'aimer les uns les autres, il faut se pardonner parce qu'on est imparfait. Et je blesse les personnes que j'aime et les personnes que j'aime me blessent. Et la seule façon qu'on va trouver le bonheur là-dedans, c'est se pardonner. Hein? Et quelle est la première chose à enseigner à nos enfants? On va taper dessus pour qu'ils soient obéissants et sages. N'est-ce pas? Un enfant tannant, un enfant qui désobéit, qu'est-ce qu'on fait? Tape en arrière de la tête, tape ses fesses. C'est quoi la chose première chose qu'on doit enseigner à nos enfants? J'ai raté un petit peu les trois premiers, mais le dernier, la première chose, première chose qu'on a compris à ce moment-là. Mais je m'excuse, Ben, mais c'était. Je l'ai vu sortir de sa chambre après avoir fait quelque chose de répréhensible. Je l'ai vu coucher en dessous de sa bassinette, puis il était pas vieux, là, 2-3 ans. Le front à terre, puis je te demande pardon, Jésus. Puis sortir de sa chambre, puis un nouvel homme. Hein? On peut taper sur nos enfants en espérant qu'il va devenir sage, mais tout ce que ça fait, ça les condamne. Ça leur fait une image d'eux-mêmes qui sont pas bons. Hein? Ils font jamais rien de bien. Tandis que si on enseigne le pardon, on est en train de dire, oui, hein, tu mérites d'être puni pour ta désobéissance, mais hey, tu peux être lavé, pardonné, purifié. Puis tu peux recommencer la communion avec papa puis maman. Et rétabli. Lise raconte souvent que à un moment donné, t'as fâché après Ben, et Ben lui a répondu, oui, mais Jésus, lui, me pardonne. Tiens-toi. C'est quoi l'héritage qu'on va laisser à nos enfants? Hein? Ma prière. Un jour, ils vont avoir besoin du pardon de Dieu. Et je serai là. Hein? Nous serons là. Le père de l'enfant prodigue, là, il attendait juste ce moment-là. Le gars, il avait été tout croche, puis gâché sa vie. Mais ça prend une petite repentance, un U-turn. Et Dieu le reçoit les bras grands ouverts. Alors, est-ce qu'on veut le bonheur de nos enfants? Qu'est-ce qu'on va leur enseigner? Le pardon. Hein? Et pour leur enseigner, il faut le pratiquer soi-même. Et des fois, de dire à notre enfant, je te demande pardon parce que papa a été pas correct. ça peut être le meilleur moyen de lui enseigner. Hein? Donc, on ne peut pas vivre sans pardon et on ne peut pas vivre non plus sans la présence du Saint-Esprit en nous. Jésus, et on arrive à, on a fait un long chemin, un long détour, mais on arrive à, quelqu'un veut lire ça, là? Comme Jésus l'a dit, il était à la fête, il était probablement sur l'enceinte du temple, il y avait des foules devant lui, c'était la fête, je me souviens pas, c'était-tu la Pâque ou la fête des tabernacles peut-être. Mais en tout cas, Francis, tu vas lire ça?
Oui.
Oui. Et le peuple répondit. C'est quoi là, ça là? C'est quoi la promesse? Si quelqu'un a soif, si je ne bois pas, je meurs. Hein? La biche soupire après des courants d'eau parce que si elle ne boit pas, elle meurt. Hein? Si quelqu'un qui a soif de Dieu, de connaître Dieu, qu'il vienne à moi puis qu'il boive, hein? Plus capable de vivre. Ouais. Et le peuple répondit.
Wow!
Oh. Ouais. Plus capable de vivre comme ça, hein? Ma vie, c'est comme si j'étais en train. On a-tu déjà eu soif? J'ai soif en ce moment, un petit peu. Mais c'est terrible. Toutes nos pensées sont absorbées par ça. Toutes nos pensées sont absorbées par Dieu. Lorsqu'on va à Dieu, il va nous abreuver. Et qu'est-ce qu'il nous promet? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alors Jésus, je vous annonce que Jésus, c'est l'oasis. Hein? C'est ça qu'ils ont à dire. Jésus, il est l'oasis, il est la source d'eau à laquelle on s'abreuve, et nous devenons, en s'abreuvant à la source qui est Jésus, nous devenons des fleuves d'eau vive. Nous devenons à notre tour une oasis pour les personnes qui sont autour de nous. Pas beau ça? Hein? Toute une invitation. Plus capable de vivre sans mon temps avec le Seigneur à tous les jours. Je suis pas capable de passer une journée sans aller dans la présence de Dieu pour retrouver ma paix, retrouver ma joie, retrouver l'amour qui me manque, retrouver la force, retrouver la pureté, retrouver la sainteté. C'est tout là. C'est à notre portée. On a une source qui peut jaillir dans nos cœurs, à laquelle on doit se brancher. Au lieu de sombrer dans le désespoir, au lieu de tuer mes trois enfants, puis me tuer moi-même, essayer de me tuer moi-même. Au lieu de sombrer dans, m'anesthésier dans toutes sortes de plaisirs du monde, fuir dans toutes sortes d'amusements ou toutes sortes d'excès, et dans la méchanceté, dans la violence, parce que j'ai plus rien à perdre. Hein? Au lieu de ça, on a une oasis, on peut venir à Jésus-Christ, être abreuvé soi-même, puis de dire aux gens qui sont ici autour, là, qui souffrent de violence, qui souffrent, qui sont en train de s'anesthésier dans toutes sortes d'affaires, on va dire Jésus. Jésus, c'est la solution. Voyez Jésus à l'œuvre dans la vie de telle personne. Voyez ce que Jésus a fait dans ma vie. Voyez ce que Jésus est en train de faire ici. Voyez ce que Jésus a fait dans la vie de Asmik. Hein? Le nom de Jésus, c'est celui qui peut abreuver celui qui a soif, celui qui veut le bonheur. Et le peuple répondit, wow. Hein? Jésus, c'est la source, c'est l'oasis qui va rassasier notre soif de vivre, notre soif de bonheur. Qu'est-ce que c'est une oasis? Ça reste planté là. Qu'est-ce que ça produit, une oasis? Oui? Hein? Le désert de Judée, là? Tu fais une demi-heure, une heure d'autobus ou d'auto dans le désert, puis à un moment donné, tu vois des palmiers, tu vois des choses extraordinaires. Tu arrives à Jéricho, qui est en plein milieu du désert. Et des fruits, des choses incroyables qui poussent là. Et c'est ça une oasis. Un oasis, c'est quelque chose qui va porter du fruit, qui va répandre la vie partout. Hein? Jésus a fait cette promesse-là dans Ésaïe 58. Quelle promesse! Quelle promesse! Quelqu'un veut lire ça? Promesse pour nous, là. Vas-y, Jean-Pierre. Wow! Hein? C'est notre mission, ça. Hein? C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est la raison pour laquelle Dieu me laisse sur terre. Pourquoi est-ce que je vais pas direct dans le paradis? Pour être cette oasis. Pour être, de dire aux gens qui sont à l'extérieur, voyez, voyez, il y a un peuple, il y a une famille, il y a une communauté qui aime le Seigneur, qui a trouvé le Seigneur, qui s'est détourné de ses mauvaises voies, de la vie égoïste, égocentrique, individualiste, matérialiste, et qui s'est tourné vers la source d'eau vive, puis qui sont devenus des eaux vives. Peut-être on a l'impression qu'il y a juste un petit filet qui coule, hein? Mais mettez tous les petits filets ensemble, là. Ça devient un ruisseau. Et ce ruisseau-là, il va devenir une rivière, il va devenir un fleuve, par la grâce de Dieu. Et je vous laisse avec cette parole de Jésus à la Samaritaine. Il dit, quiconque boit de cette eau de la fontaine aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Wow! Wow! Hein? À la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est tombé, si on peut dire, sur 120 personnes. Le lendemain, ils étaient 3120. Hein? Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Des fleuves d'eau vive se sont mis à couler à partir de la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça a produit le salut partout où ils sont passés. Il y a une vie nouvelle. Le bonheur en Dieu a été répandu sur la terre. Il y a des pays en entier qui ont été christianisés. Des empires qui ont été renversés avec l'évangile de Jésus. Parce que la puissance de Dieu était à l'œuvre dans les cœurs. Et c'est ce que nous sommes à notre tour. Hein? C'est ce que nous sommes aujourd'hui pour nos parents, pour nos enfants, pour ceux qui sont dehors, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen.